Chapitre 30 Le contrat. Monsieur Bricolin, dit Marcel en suivant le fermier dans une espèce de cabinet sombre et mal rangé où il entassait ses papiers pêle-mêle avec divers instruments oratoires et ses échantillons de semences, êtes-vous disposé à m'écouter avec calme et douceur? Le fermier avait beaucoup bu pour se donner de l'aplomb avant d'aller insulter Grand Louis sur le terrier. En revenant, il avait encore bu pour se calmer et se rafraîchir. En troisième lieu, il avait bu pour conjurer la tristesse répandue autour de lui et chasser les idées noires qui le gagnaient. Son pichet de faïence à fleurs bleues, en permanence sur la table de la cuisine, lui servait ordinairement de contenance ou de stimulant contre la première pesanteur de l'ivresse. Quand il se vit seul avec la dame de Blanchemont et privé du secours de son vin blanc, il se sentit mal à l'aise, fit machinalement le mouvement de chercher sur sa table à écrire un vers qui ne s'y trouvait point, et en voulant offrir une chaise, il en fit tomber deux. Marcel s'aperçut alors que ses jambes, sa face rouge, sa langue et son cerveau étaient passablement avinés, et malgré le dégoût que lui inspirait ce redoublement d'attrait du personnage, elle résolut d'affronter une franche explication avec lui, se rappelant le proverbe « in vino veritas ». Voyant qu'il avait à peine entendu ses premières paroles, elle revint à l'assaut. « Monsieur Bricolin, lui dit-elle, j'ai eu le plaisir de vous demander si vous étiez disposé à écouter avec bienveillance et tranquillité une demande assez délicate que j'ai à vous faire. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Répondit le fermier d'un ton peu gracieux, mais sans énergie. Il en voulait beaucoup à Marcel, mais il était trop appesanti pour le lui témoigner. Il y a, monsieur Bricolin, reprit-elle, que vous avez chassé de votre maison le meunier d'Angibault, et que je désirais savoir la cause de votre mécontentement contre lui. Bricolin fut étourdi de cette franche manière d'aborder la question. Il y avait dans l'extérieur de Marcel une sincérité hardie qui le gênait toujours, et surtout dans un moment où il n'avait pas le libre exercice de ses facultés. Dominé comme par une volonté supérieure à la sienne, il fit le contraire de ce qu'il eût fait à jeun et il dit la vérité. « Ben vous la savez, madame, répondit-il, la cause de mes mécontentements. « J'ai pas besoin de vous la dire. »« Ah, c'est donc moi ?» dit madame de Blanchemont. « Vous, non, je vous accuse pas. Vous songez à vos propres intérêts. C'est tout simple, comme je songe au mien. Mais je trouve que c'est le fait d'une canaille de faire semblant d'être mon ami et d'aller pendant ce temps-là vous donner des conseils contre moi. Écoutez-les, profitez-en, payez-les bien, vous n'en manquerez pas. » Mais moi, je me mets à la porte l'ennemi qui me nuit auprès de vous. Voilà. Tant pis pour ceux qui le trouvent mauvais. Je suis le maître chez moi, car enfin, voyez-vous, madame de Blanchemont, je vous le dis, chacun pour soi. Vos intérêts sont vos intérêts à vous. Mes intérêts sont mes intérêts à moi. La canaille est de la canaille. Au jour d'aujourd'hui, chacun songe à soi. Je suis le maître dans ma maison et dans ma famille. Vous avez vos intérêts comme je les miens. Et pour des conseils contre moi, vous n'en manquerez guère, je vous le dis. » Et M. Bricolin continua ainsi pendant 10 minutes à se répéter fastidieusement sans s'en apercevoir, pendant chaque parole le souvenir d'avoir dit déjà 100 fois la même chose. Marcel, qui avait vu rarement de près des gens ivres et qui n'avait jamais causé avec aucun, l'écoutait avec étonnement, se demandant s'il était devenu tout à coup idiot et songeant avec effroi que le sort de Rose et de son amant dépendait d'un homme dur et opiniâtre, à jeun et stupide et sourd quand le vin avait apaisé sa rudesse. Elle le laissa ressasser pendant quelque temps les mêmes lieux communs, ignobles, puis voyant que cela pouvait durer jusqu'à ce que le sommeil le prît sur sa chaise, Elle essaya de le dégriser en touchant brusquement la corde la plus sensible. « Voyons, monsieur Bricolin, » dit-elle en l'interrompant, « vous voulez absolument acheter Blanchemont. Et si j'acceptais le prix que vous m'en offrez, seriez-vous encore fâché ?» Bricolin fit un effort pour relever ses paupières dilatées et pour regarder fixement Marcel, qui de son côté le regardait avec attention et assurance. Peu à peu, l'œil du fermier s'éclaircit, sa face lourde et gonflée parut se raffermir, et on eût dit qu'un voile tombait de dessus ses traits. Il se leva et fit deux ou trois tours dans la chambre, comme pour essayer ses jambes et rassembler ses idées. Il craignait de rêver. Quand il revint s'asseoir vis-à-vis de Marcel, son attitude était solide et son teint presque pâle. « Pardon, madame la baronne, lui dit-il, qu'est-ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire ?»« Je dis, reprit Marcel, que je suis capable de vous laisser ma terre pour 250 000 francs si... »« Si quoi ?» demanda Bricolin d'un ton bref et avec un regard de lynx. « Si vous voulez me promettre de ne pas faire le malheur de votre fille. »« Ma fille, mais qu'est-ce que ma fille a à faire dans tout cela ?»« Votre fille aime le meunier d'Angibault. Elle est fort malade. Elle peut en perdre la raison comme sa sœur. »« Entendez-vous, comprenez-vous, monsieur Bricolin ?»« J'entends et je comprends guère. Je vois bien que ma fille a une espèce d'amourette dans la tête. » Ça peut passer d'un jour à l'autre comme ça est venu. Mais quel si grand intérêt portez-vous à ma fille ? Que vous importe ? Puisque vous ne comprenez pas qu'on puisse avoir de l'amitié et de la compassion pour une fille charmante qui souffre, vous comprenez au moins l'avantage d'être propriétaire de Blanchemont. C'est un jeu, madame la baronne. Vous vous moquez de moi ? Vous avez parlé aujourd'hui à mon plus grand ennemi, à Taillant, le notaire, qui vous aura certainement conseillé de me tenir la dragée haute. Non, sans aucune animosité contre vous, il m'a donné le renseignement nécessaire sur ma position. Or, je sais que je pourrais trouver un acquéreur très prochainement et vous tenir, comme vous dites, la dragée très haute. Et c'est le meunier d'Angibault qui vous a procuré ce bon conseiller-là, en cachette de bois. Qu'en savez-vous ? Vous pourriez vous tromper. D'ailleurs, toute explication à ce sujet est inutile. Si je me contente de vos offres, que vous importe le reste ? Mais le reste, c'est qu'il faut que ma fille épouse un meunier. Votre père l'était avant d'entrer comme fermier chez mes parents. Mais il a ramassé du bien, et au jour d'aujourd'hui, je suis en position d'avoir un gendre qui m'aidera à acheter votre terre. Elle a acheté 300 000 francs et peut-être plus. Ah, c'est donc une condition sine qua non. Vous voulez que ce meunier épouse ma fille. Mais quel intérêt avez-vous à cela? Je vous l'ai dit, l'amitié, le plaisir de faire des heureux, toutes choses qui vous paraissent bizarres, mais chacun son caractère. Je sais bien que des fois, monsieur le baron, votre mari, aurait donné 10 000 francs d'un mauvais cheval, 40 000 francs d'une mauvaise fille quand ça lui passait par la tête. Ce sont des fantaisies de nobles. Mais enfin, ça se conçoit. C'était pour lui, ça lui procurait de l'agrément. Au lieu que faire un sacrifice purement pour le plaisir des autres, à des gens qui vous tiennent en rien, que vous connaissez à peine. Alors vous me conseillez donc de ne pas le faire. Je vous conseille, dit vivement Bricolin, effrayé de sa maladresse, de faire ce qui vous plaît. On discute pas des goûts et des idées, mais enfin, vous vous méfiez de moi, cela est clair. Vous ne me croyez pas sincère dans mes propositions. Dame, madame, quelle garantie en aurais-je? C'est une fantaisie de reine qui peut vous passer d'un moment à l'autre. C'est pourquoi vous devriez vous hâter de me prendre au mot. Et la pardieu raison, se dit Monsieur Bricolin. Mais dans sa folie, elle a plus de froid, sang-froid que moi. Voyons, Madame la Baronne, dit-il, quelle garantie me donneriez-vous? Un engagement écrit, signé, à un coup sûr. Et moi, je vous promettrai de donner ma fille en mariage à votre protégée. Vous m'en donneriez d'abord votre parole d'honneur. D'honneur, oui, et puis après. Et puis tout de suite, vous iriez en présence de votre mère, de votre femme et de moi la donner à Rose. Ma parole d'honneur, mais Rose est donc bien amourachée? Enfin, consentez-vous. S'il faut que cela pour lui faire plaisir à cette petite. Ah, il faut plus encore. Quoi donc? Ben, il faut tenir votre parole. La figure du fermier s'altéra. Tenir ma parole, tenir ma parole, dit-il, mais vous en doutez donc? Ben, pas plus que vous ne doutez de la mienne. Mais comme vous me demandez un écrit, je vous en demanderai un aussi. Un écrit comme quoi tourner? Ben, une promesse de mariage que je rédigerai moi-même, que Rose signerait et que vous signeriez aussi. Et si Rose allait me demander une dot après cela? Non, elle y renoncerait par écrit. Oh, ce serait une fameuse économie, pensa le fermier. Cette diable de dot qu'il m'aurait fallu fournir d'un jour à l'autre m'aurait empêché peut-être d'acheter Blanchemont. Ne pas doter et avoir Blanchemont pour 250 000 francs, c'est 100 000 francs de profit. Allons, il n'y a pas à marguigner. Avec ça, que si Rose devenait folle, faudrait bien renoncer à trouver un gendre et puis payer un médecin à l'année. Et puis enfin, c'est trop triste, ça ferait trop de peine de l'avoir devenir laide et malpropre comme sa sœur. Ce serait une honte pour nous d'avoir deux filles folles. Celle-là sera drôlement établie, mais la seigneurie de Blanchemont peut replanterait bien les choses. On critiquera d'un côté, on nous jalousera de l'autre. Allons, soyons bon père. L'affaire n'est pas mauvaise. Madame la baronne, dit-il, si nous essayons de voir comment on pourrait tourner cet écrit-là, c'est un drôle de marché tout de même. J'en ai jamais vu de modèle. Ni moi non plus, répondit Madame de Blanchemont. Et je ne sais s'il en existe dans la législation moderne. Mais qu'importe, avec du bon sens et de la loyauté, vous savez qu'on peut rédiger un acte plus solide que tous ceux des gens du métier. Ça se voit tous les jours, un testament par exemple. Le papier timbré, même, n'y fait rien. Mais j'en ai ici, j'en ai toujours. On doit toujours avoir de ça sous la main. Laissez-moi faire un brouillon sur papier libre, monsieur Bricolin, et faites-en un de votre côté. Nous comparerons, nous discuterons s'il y a lieu, et nous transcrirons sur papier marqué. Faites, faites, madame, répondit Bricolin, qui savait à peine écrire. Vous avez plus d'esprit que moi, vous tournerez ça mieux que moi, et puis nous verrons. Pendant que Marcel écrivait, Monsieur Bricolin chercha dans un coin une cruche d'eau, et sans être aperçu, il la posa sur une encoignure, s'inclina et en avala une certaine quantité. Il s'agit d'avoir sa tête, pensait-il. Il me semble bien que c'est revenu, mais de l'eau froide dans le sang, c'est très beau en affaire, ça rend prudent et méfiant. Marcel, inspiré par son cœur et doué d'ailleurs d'une grande lucidité d'intelligence, dans ses généreuses résolutions, rédigea un écrit qu'un légiste eût pu regarder comme un chef-d'œuvre de clarté, quoiqu'il fût écrit en bon français, qu'il n'eût pas un mot de l'argot consacré, et qu'il fût empreint de la plus admirable bonne foi. Quand Bricolin en eut écouté la lecture, il fut frappé de la précision de cet acte, qu'il n'eût pas dicté, mais dont il comprenait fort bien la valeur et les conséquences. Le diable soit les femmes, pensa-t-il. On a bien raison de dire que quand par hasard elles s'entendent aux affaires, elles en répondraient au plus malin d'entre nous. sais bien, quand je consulte la mienne, elle s'aperçoit toujours de ce qui peut laisser une porte ouverte en ma faveur ou à mon détriment. Ben, je voudrais qu'elle fût là. Ben, elle nous retarderait par ses objections. Nous verrons bien quand il sera question de signer. Qu'est-ce qui croirait pourtant que cette jeune dame-là, qui est une liseuse de romans, une républicaine et un cerveau brûlé, est capable de faire si sagement une folie? J'en perds la tête d'étonnement. Mais buvons encore un verre d'eau. Bah, que c'est mauvais. Que le bon vin, il me faudra boire après le marché pour me refaire l'estomac. Chapitre 31. Arrière-pensée. Ça me paraît sans objection, dit Monsieur Bricolin, quand il eut écouté attentivement une seconde et une troisième lecture de l'acte, tout en suivant avec ses yeux qui s'agrandissaient et qui s'éclaircissaient à chaque ligne, le texte que Marcel tenait entre deux. Il n'y a qu'une petite chose que je trouve à redire, c'est le prix, Madame Marcel. Vrai, c'est trop cher, de 20 000 francs. Je réfléchissais pas d'abord quel tort pouvait me faire le mariage de ma fille avec ce meunier. On va dire que je suis ruiné, puisque je l'établis si misérablement. Ça m'ôtera mon crédit. Et puis ce garçon a pas de quoi acheter des présents de noces. C'est encore une dépense de 8 ou 10 000 francs qui retombera à ma charge. Rose peut pas se passer d'un joli trousseau. Je suis sûr qu'elle y tient. Je suis sûr, moi, qu'elle n'y tient pas, dit Marcel. Écoutez, monsieur Bricolin, elle pleure, l'entendez-vous? J'entends pas, madame, je crois que vous vous trompez. Je ne me trompe pas, dit Marcel en ouvrant la porte. Elle souffre, elle sanglote, et sa sœur crie. Comment vous hésitez, monsieur? Vous trouvez le moyen de vous enrichir en lui rendant la santé, la raison, la vie peut-être. Et dans un moment pareil, vous songez à gagner encore sur votre marché. Mais vraiment, ajouta-t-elle avec indignation, vous n'êtes pas un homme, vous n'avez pas d'entrailles. Prenez garde que je ne me ravise et que je ne vous abandonne aux calamités qui pèsent sur votre famille comme un châtiment de votre avarice. De cette sortie véhémente, le fermier n'entendit clairement que la menace de rompre le marché. Allô, madame, passez-moi 10 000 francs, dit-il, et c'est conclu. Adieu, dit Marcel. Je vais voir Rose. Faites vos réflexions, les miennes sont faites. Je ne changerai rien à mes conditions. J'ai un fils et je n'oublie pas qu'en songeant aux autres, je ne dois pas trop le sacrifier. Rasseyez-vous donc, madame Marcel, et laissons dormir la pauvre Rose, elle est si malade. Mais allez donc la voir vous-même, dit Marcel avec feu. Vous vous convaincrez qu'elle ne dort pas. Peut-être que ses souffrances vous feront souvenir que vous êtes son père. Je m'en souviens, répondit Bricolin, effrayé de la pensée que Marcel pourrait bien changer d'avis s'il lui donnait le temps de la réflexion. Allons, madame, bâclons cet acte-là afin de pouvoir emporter la nouvelle à Rose et la guérir. J'espère, monsieur, que vous lui donnerez votre consentement pur et simple, et qu'elle ne saura jamais que je voulais acheter. Ah, vous voulez pas qu'elle sache que c'est une condition entre nous? Oh, ben, ça m'arrange. Alors, il est inutile qu'elle signe l'écrit. Ah, pardon, elle le signera sans le bien comprendre. Ce sera une espèce de dot que j'aurai faite à son fiancé. Ça revient au même. Mais moi, ça m'est égal. Rome est assez raisonnable pour comprendre que je ne pouvais pas la marier si bêtement sans lui en faire retirer quelque avantage dans l'avenir. Mais le paiement, madame Marcel, vous exigez donc qu'il se fasse comptant. Ben, vous m'avez dit que vous étiez en mesure. Sans doute, je le suis. Je viens de vendre une grosse métairie qui était trop loin de mes yeux et dont j'ai touché il y a 8 jours le paiement intégral. Chose qui ne se fait guère dans notre pays. Mais c'est un grand seigneur qui m'a acheté ça et ces gens-là ont du comptant à plein coffre. C'est un pair de France, c'est monsieur le duc de... qui voulait faire un parc sur mes terres et s'arrondir. Ça lui convenait, j'ai vendu cher comme de juste. N'importe, vous avez les fonds? Je les ai en portefeuille, un beau billet de banque, dit Bricolin en baissant la voix. Je vais vous les faire voir pour que vous n'ayez pas de soucis. Et après avoir été fermé les portes au verrou, il tira de sa ceinture un énorme portefeuille de cuir gras et luisant où s'amoncelait une quantité de billets sur la Banque de France. Étonné de l'air indifférent avec lequel Marcel les comptait, « Oh, dit-il, ça fait frémir d'avoir tant d'argent que ça à la fois. Heureusement qu'il n'y a pas plus de chauffeur et qu'on peut se risquer à garder ça quelques jours sans le placer. Je porte ça tout le jour sur moi et la nuit je le mets sous mon oreiller, je dors dessus. Il me tarde tant de m'en débarrasser. Si j'avais pas fait affaire avec vous tout de suite, j'aurais acheté un coffre de fer pour le serrer, en attendant le placement, car de confier ça à des notaires ou à des banquiers, pas si bête. Aussi, je voudrais que nous puissions bâcler notre marché ce soir, afin de voir plus à garder ce trésor. J'espère bien que nous avons terminé de suite, dit Marcel. Mais quoi, sans en consulter, et ma femme et mon notaire? Votre femme est ici. Quant à votre notaire, si vous l'appelez, il faut que j'appelle aussi le mien. Oh, ces diables de notaire gâteront tout, croyez, madame. J'en sais aussi long que. Et vous aussi, car votre acte est bon, et si nous le faisons enregistrer, il nous en coûtera un diable bon. Passons-nous donc de cette formalité. Je vous rendrai, comme on dit, de la main à la main. Un marché si important, ça fait frémir cependant. Mais ceci n'est qu'une promesse, après tout. Si nous la signons, c'est une promesse qui vaut acte. Je suis prête à la signer. Allez chercher votre femme. Il faut bien, se dit Bricolin, pour que ça prenne pas trop de temps et que le vent ne tourne pas pendant une heure de dispute, que la Thibaude va peut-être me chercher. Vous allez voir Rose, madame Marcel, ne lui dites rien encore. Je m'en garderai bien, mais vous me permettez de lui faire entrevoir quelque espérance de votre consentement. Au point où nous en sommes, ça se peut, répondit Bricolin, s'avisant avec sagacité que la vue de Rose et de ses larmes était le meilleur moyen d'entretenir Marcel dans ses généreuses intentions. Monsieur Bricolin trouva sa femme dans des dispositions bien différentes de celles qu'il prévoyait. Madame Bricolin était dure, acariâtre, mais quoique plus avare que son mari dans les détails de la vie, elle était peut-être moins cupide quant à l'ensemble. Plus amère dans ses paroles, plus insensible en apparence, elle était plus capable que lui d'un beau mouvement dans l'occasion. D'ailleurs, elle était femme, et le sentiment maternel, pour être caché sous des formes acerbes, n'en était pas moins vivant dans son sein. « Monsieur Bricolin, dit-elle en venant à sa rencontre et en s'enfermant avec lui dans la cuisine, où brûlait tristement une maigre chandelle, tu me vois dans la peine. Rose est plus malade que tu ne penses. Elle ne fait que crier, pleurer, comme si elle avait perdu la tête. Elle aime ce meunier. C'est comme une punition de Dieu pour nos péchés. Mais le mal est fait, son cœur est pris, elle est tout juste comme si c'était sa sœur quand elle commençait à déménager. D'un autre côté, l'état de l'autre empire et menace de devenir intolérable. Le médecin, en voyant qu'elle faisait mine de briser les portes, vient d'exiger qu'on la laissa sortir et vaguer dans la carène et le vieux château comme à l'ordinaire. Il dit qu'elle est habituée à être seule, toujours en mouvement, et que si on la tient enfermée avec du monde autour d'elle, elle deviendra furieuse. Mais j'en tremble si elle allait se tuer. Elle paraît si méchante ce soir. Elle, qui ne parle jamais, nous a dit toutes les horreurs de la vie. J'ai l'estomac qui m'en fait mal, c'est abominable de vivre comme ça. Et quand on pense que c'est une amour contrariée qui en est la cause. Nous avons pourtant également bien élevé toutes nos filles. Les autres se sont mariées comme nous avons voulu, elles nous font honneur. Elles sont riches, elles ont l'esprit de se trouver heureuses, quoique leurs maris ne soient pas des jolis cœurs. Mais l'aînée et la dernière ont des têtes de fer, et puisque nous avons eu le guignon de ne pas comprendre ce qui pouvait perdre l'une, alors nous devons avoir la prudence de ne pas contrarier l'autre. J'aimerais mieux qu'elle ne fût pas née pour épouser ce meunier, mais elle le veut. Et comme j'aimerais mieux l'avoir morte que folle, il faut prendre son parti là-dessus. Je te le dis donc, monsieur Bricolin, je donne mon consentement, il faut bien que tu donnes le tien. Je viens de dire à Rose que si elle voulait absolument se marier avec cet homme-là, je l'en empêcherai pas. Ça a paru la calmer, quoiqu'elle n'ait pas eu l'air de me comprendre ou de me croire. Il faut que tu ailles chez elle et que tu dises de même. Mais comme ça se trouve, s'écria Bricolin enchanté, tiens, femme, lis-moi ce bout d'écrit, et dis-moi s'il n'y manque rien. Je tombe des nues, dit la fermière après avoir lu l'écrit. Et après maintes exclamations, elle rassembla toutes les glaces de sa volonté pour le relire avec toute l'attention d'un procureur. « Cet écrit est bon pour toi, dit-elle, ça vaut un jugement. T'as pas besoin de consulter, monsieur Bricolin, t'as qu'à signer. C'est tout profit, tout bonheur. Ça fait nos affaires et ça contente Rose. Oh, on a raison de dire que quand on a bonne intention, le bon Dieu vous en récompense. Moi, je t'ai décidé à la donner pour rien à son amant, et nous en voilà bien payés. Signe, signe, mon vieux, et paye. » Ça fera que l'acte aura reçu exécution et qu'il n'y aura pas à y revenir. Payer déjà, comme ça tout d'un coup, sur un chiffon de papier qui n'est pas seulement notarié. Paix, te dis-je, et fais publier les bans demain matin. Mais si on faisait entendre raison à la petite, peut-être qu'elle se portera bien demain et qu'elle consentira en épouser un autre si on la raisonne et si tu sais t'y prendre avec elle. On pourrait dire alors qu'un acte pareil de ma part est une folie, une bêtise, qui ne peut pas engager ma fille. Eh bien, alors la vente serait annulée. Oh, savoir, on peut toujours plaider. Mais tu perdrais. Savoir encore. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? La vente serait suspendue. Un procès, on peut faire durer ça longtemps. Tu sais que Madame de Blanchemont ne peut pas attendre. Ça la forcerait bien à transiger. Avec ces histoires-là, on fait mal parler de soi, monsieur Bricolin. On perd son honneur et son crédit. Il y a toujours profit à agir rondement. Eh bien, on verra, Thibaud. Va toujours dire à ta fille que c'est conclu. Peut-être que quand elle se sentira plus contrariée, elle se souciera plus tant de son grand Louis. Car ça m'a l'air tout bonnement d'une pique entre les bras qui lui monte comme ça la tête. Dis donc, il a pas mal malheuré dans tout ça, le meunier. Il a su trouver le moyen de capter la protection et l'amitié de cette dame, je sais pas comment. Le gaillard est pas sot. Je le détesterai toute ma vie, répondit la fermière, mais c'est égal. Pourvu que Rose ne devienne pas comme sa sœur, je battrai froid son mari et je me tairai. Oh, son mari, il ne l'est pas encore. Si fait, Bricolin, c'est une affaire finie, elle va signer. Et toi, il faut bien que tu signes aussi. Mais je suis prête. Madame Bricolin entra délibérément chez sa fille, où Marcel l'attendait, et elle signa avec son mari sur un coin de la commode. Quand ce fut fait, Bricolin dit tout bas à sa femme avec un regard de triomphe farouche, « Thibaud, la vente est bonne et la condition est nulle. Tu savais pas ça, toi qui prétends tout savoir. » Rose avait toujours la fièvre et les douleurs intolérables à la tête. Mais depuis que la folle était dehors et qu'on ne l'entendait plus crier, Rose avait les nerfs plus calmes. Quand Marcel eut signé et qu'elle présenta la plume à sa jeune amie, celle-ci eut bien de la peine à comprendre ce dont il s'agissait, mais quand elle l'eut compris, elle fondit en larmes et se jeta avec effusion dans les bras de son père, de sa mère et de son amie, en disant à l'oreille de celle-ci « Oh, divine Marcel, c'est un prêt que j'accepte. Je serai assez riche un jour pour m'acquitter envers votre fils. » La grand-mère Bricolin fut la seule de la famille qui comprit la noble conduite de Marcel. Elle se jeta à ses genoux et les embrassa sans rien dire. « Et maintenant, dit Marcel tout bas à la vieille, il n'est pas bien tard, 10 heures seulement. Grand Louis pourrait bien être encore sur le terrier, et d'ailleurs, il n'y a pas si loin d'ici en Gibault. Si on envoyait quelqu'un le chercher, je n'ose le proposer, mais on pourrait le faire arriver comme par hasard, et une fois ici, il faudrait bien l'instruire de son bonheur. « Je m'en charge !» s'écria la vieille. « Quand je devrais aller moi-même au moulin, et je trouverai à mes jambes 15 ans pour ça. » Elle sortit elle-même en effet dans le village, mais elle ne trouva pas le meunier. Elle voulut lui dépêcher un garçon de ferme. Ils étaient tous ivres, endormis dans leur lit ou au cabaret, incapables de se mouvoir. La petite Fanchon était trop poltronne pour s'en aller de nuit par les chemins. D'ailleurs, il n'était pas humain d'exposer cette jeune enfant un soir de fête à rencontrer toutes sortes de gens. La mère Bricolin allait, cherchant sur le terrier devenu presque désert, quelqu'un d'assez mûr et d'assez prudent pour se charger de sa commission, lorsque l'oncle Cadoche, sortant de dessous le porche de l'église où il venait de marmotter une dernière prière, s'offrit à ses regards. Chapitre 32 Le Patachon. « Vous vous promenez bien tard, madame Bricolin, » dit le mendiant à la vieille fermière. « Vous avez l'air de chercher quelqu'un. Votre petite fille est rentrée depuis longtemps, son papa l'a joliment contrariée aujourd'hui. » « c'est bon, Cadoche, » répondit la vieille. « J'ai pas d'argent sur moi, mais je crois qu'on t'a donné aujourd'hui chez nous. »« On ne vous demande rien, ma journée est faite. J'ai bu 3 petits verres ce soir et je m'en vais plus que droit. Tenez, mère Bricolin, c'est pas votre mari, ni même votre garçon, le gros monsieur, qui porterait la boisson comme je le fais à mon âge. Je vous souhaite le bonsoir, je m'en vais coucher en Gibault. » En Gibault, Cadoche, mon vieux, tu vas en Gibault? Ça vous étonne? Ma maison est à 2 grandes lieues d'ici, du côté de Jeux-les-Bois. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Bon, on va passer la nuit chez mon neveu le meunier. J'y suis toujours bien sûr, on ne me met pas à la paille, comme dans les autres maisons, comme chez vous, par exemple, qui êtes pourtant assez riche encore, malgré les chauffeurs. Chez mon neveu, il y a un lit pour moi dans le moulin et on n'a pas peur que j'y mette le feu, comme chez vous quand on n'a pas le feu au pied, on l'a dans la tête. » Ces allusions à la catastrophe dont son mari avait été victime firent passer un frisson dans le vieux sang de la mère Bricolin, mais elle fit un effort pour ne penser que sa petite fille a des jours meilleurs. « C'est donc chez le grand Louis que tu vas, » dit-elle au vieillard. « Sans doute c'est le meilleur de mes neveux, c'est mon vrai neveu, mon héritier futur. » Dis donc, Cadoche, puisque t'es dans ton bon sens et que t'es si habile, grand Louis, tu peux lui rendre un fameux service. Il y a une affaire qui presse et il faut qu'il vienne tout de suite me parler. Dis-lui ça, je l'attendrai à la porte de la grande cour. Qu'il prenne sa jument, il ira plus vite. » « Ben, ce jument, il a plu, on l'a lui a volé. Ben, c'est égal qu'il vienne n'importe comment, l'affaire l'intéresse beaucoup. » Et qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Oh, bon, il veut qu'on lui explique ça à présent. Kadosh, il y aura une pièce neuve de 20 sous pour toi que tu pourras venir chercher demain matin. À quelle heure ? Quand tu voudras. Moi, j'irai à 7 heures. Soyez-y, parce que j'aime pas attendre. Va donc, j'y vais. Oh, j'en ai pas pour 3/4 d'heure. Ah, c'est que j'ai de meilleures jambes que votre mari, meilleur bricolat. Et pourtant, j'ai 10 ans de plus. Le mendiant partit d'un pas assez ferme, en effet. Il approchait d'Angibault lorsqu'il se trouva dans un chemin étroit, juste devant la calèche de M. Ravalard, conduit un grand train par le patachon roux et méchant, qui dédaigna de lui crier « Gare !» et poussa ses chevaux sur lui. Il est contraire à la dignité du paysan berrichon de se déranger jamais pour une voiture, quelque avertissement qu'il reçoive, quelque difficulté qu'il y ait à se déranger pour lui. L'oncle Kadosh était plus fier que qui que ce soit dans le pays. Habitué à traiter du haut de sa grandeur, avec un sérieux comique, tous ceux auxquels il tendait une main suppliante, il affecta de ralentir son allure et de garder le milieu du chemin, quoiqu'il sentît la laine ardente des chevaux sur son épaule. « Mais roche-toi donc, animal !» cria enfin le patachon en lui allongeant un grand coup de fouet autour du visage. Le mendiant se retourna et, saisissant les chevaux à la bride, il les fit reculer si fort qu'il faillit renverser la voiture dans le fossé. Alors s'engagea entre lui et le patachon furieux une lutte désespérée, celui-ci frappant toujours de son fouet et proférant 1000 imprécations, le vieux Kadosh se garantissant de ses atteintes en se baissant sous la tête des chevaux et les poussant toujours en leur secouant le mort avec force, tantôt les faisant reculer, tantôt reculant lui-même devant eux. M. Ravalard avait pris d'abord des airs de grand seigneur, comme il convient à un homme qui roule carrosse pour la première fois de sa vie. Il avait juré lui-même contre l'insolent qui osait l'arrêter. Mais le bon cœur du berrichon l'emportant bientôt sur l'orgueil du parvenu, dès qu'il vit que le vieillard bravait follement un danger réel. « Prenez garde, dit-il au patachon en se penchant hors de sa calèche, prenez garde de faire du mal à ce pauvre homme. » Il était trop tard. Les chevaux, exaspérés d'être fouettés d'un côté et repoussés de l'autre, avaient fait un bond furieux. Ils avaient renversé Kadosh. Grâce à l'admirable instinct de ces généreux animaux, ils franchirent son corps sans le toucher, mais les deux roues de la voiture lui passèrent sur la poitrine. Le chemin était sombre et désert. Il faisait trop nuit pour que M. Ravalard pût distinguer ce porteur de haillons couleur de terre, étendu derrière sa calèche, qui fuyait rapidement, le patachon lui-même ne pouvant maîtriser ses chevaux. D'abord, le bourgeois éprouva la peur de verser, mais quand l'attelage se calma, le mendiant était déjà bien dépassé. « J'espère que vous ne l'avez pas renversé, » dit-il à son cocher, qui tremblait encore de peur et de colère. « Non, 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 » dit le patachon, convaincu ou non de ce qu'il affirmait. Il est tombé de côté. C'est sa faute, vieille canaille. Mais les chevaux n'y ont pas touché, il n'y a pas eu de mal, car il n'a pas seulement crié. Il en sera quitte pour la peur, et ça lui servira de leçon. Mais si nous retournions voir, dit M. Ravalard. Oh non, non, monsieur, pour une égratignure, ces gens-là vous feraient un procès. Il n'y aurait même rien du tout qui vous ferait semblant d'avoir la tête cassée pour vous faire donner beaucoup d'argent. J'en ai accroché un comme ça une fois, qui a eu la patience de rester 40 jours au lit pour se faire indemniser par mon bourgeois de 40 jours de travail perdu. Il n'était pas plus malade que moi. Ces gens-là sont bien fins, dit M. Ravalard. Cependant, j'aimerais mieux n'avoir jamais de calèche que d'écraser n'importe qui. Une autre fois, petit, il faudra s'arrêter court, hein, plutôt que de se disputer comme ça, c'est dangereux. Le patachon, qui ne se souciait pas des suites de l'affaire, fouetta encore ses chevaux pour s'éloigner au plus vite. Il n'était pas sans terreur et sans remords, et il jura entre ses dents jusqu'à la fin du voyage. Le meunier, les morts, la grand-marie et M. Taillant, le notaire, sortaient en ce moment du moulin. Les morts étaient résolus à partir le lendemain. Il passait là sa dernière soirée, peu attentif à ce qui se disait autour de lui, et contemplant, plongé dans une douce mélancolie, la beauté du ciel et le miroitement des étoiles dans la rivière. Le meunier, triste et sombre, s'efforçait de faire politesse au notaire qui venait de rédiger un testament à quelques pas de là, chez un métayer de la Vallée Noire, et qui, en repassant devant le moulin, s'y était arrêté pour allumer son cigare et les lanternes de son cabriolet. La grand-marie était en train de lui expliquer qu'en prenant une autre direction, il éviterait un long trajet pierreux, et Grand-Louis assurait qu'en passant ce même chemin au pas ou à pied, en conduisant le cheval par la bride, il aurait le reste du chemin meilleur. Le notaire, quand il s'agissait de ses aises, était ce qu'on appelle dans le pays extrêmement « fafio », mot intraduisible qui désigne un homme à la fois musard et minutieux. Il venait de perdre un quart d'heure qu'il eût pu employer chez lui à se reposer, à se faire expliquer comme quoi il pouvait éviter un quart d'heure de fatigue légère. Il trouvait que mener à pied son cheval par la bride était encore plus fatigant que de rester dans sa carriole en supportant les cahots, mais que des deux, le meilleur ne valait rien et troublait la digestion. « Allons !» dit le meunier, en qui les tristes pensées ne pouvaient étouffer l'obligeance et la bonté naturelle. « Suivez-moi, en vous promenant tout doucement, je vais vous conduire votre équipage jusque là-haut. Quand nous aurons dépassé les vignes, vous aurez tout chemin de sable. » En remplissant avec bonhomie l'office de groom, Grand-Louis fut bientôt obligé de ranger le cabriolet, presque dans le fossé, pour laisser passer la calèche de M. Ravalard qui allait grand train. M. Ravalard, préoccupé de sa rencontre avec le mendiant, ne songea pas à répondre au bonsoir amical du meunier.
Bah, « C'est donc parce qu'il a la voiture qu'il me reconnaît pas, » dit celui-ci à les morts qu'il avait suivi. « Argent, argent, tu fais tourner le monde comme l'eau la roue de mon moulin. Ce damné patachon brisera tout s'il va de ce train-là sur nos cailloux. Sans doute qu'il a du vin dans la tête et de l'argent dans le gousset. Je sais pas lequel grise le mieux. » « Ah, Rose, Rose, ils te feront boire le poison de la vanité, et avant peu tu m'oublieras peut-être aussi. » Cependant, elle paraissait presque m'aimer ce soir, elle avait les yeux pleins de larmes quand on l'a séparée de moi. Je lui parlerai plus, elle me regrettera peut-être. Ah, que je serais heureux si j'étais pas si malheureux. »
Le meunier fut tiré de ses réflexions par un écart du cheval qu'il conduisait. Il se pencha en avant et vit quelque chose de pâle en travers du chemin. Le cheval refusait obstinément d'avancer et la traîne ombragée était si noire en cet endroit que Grand-Louis fut obligé de mettre pied à terre pour voir s'il avait heurté un tas de pierres ou un ivrogne.
« Oh, diable, mon oncle !» dit-il, en reconnaissant la grande taille et la besace du mendiant.
Hier soir, c'était au bord du fossé, encore passe, mais aujourd'hui, c'est tout en travers des ornières. Il paraît que vous aimez cet endroit-là, mais vous y faites mal votre lit. Alors, réveillez-vous donc et venez coucher au moulin, vous y serez un peu mieux que sous les pieds des chevaux.
« Mais cet homme est mort !» dit Henri en soulevant le mendiant dans ses bras.
Oh, le vieux pompeur, il a souvent passé par cette mort-là, ça le connaît. Il porte pourtant bien la moisson, le compère. Mais un jour de fête, on en prend plus que de raison, et il y a, comme on dit en parlant du vin, si fidèle ami qu'il vienne à vous trahir. Allons, laissons-le au pied de cet arbre, nous le reprendrons en passant pour le conduire à la maison. Les morts toucha le bras du mendiant. Si je ne sentais son pouls battre faiblement, dit-il, je jurerais qu'il est mort. Quoi, c'est passé de la misère, de la vieillesse et de l'abandon, sans qu'une passion honteuse traîne aussi ce malheureux sous les pieds des hommes. Et c'est pourtant là un homme aussi. Bah, vous êtes sévère comme un buveur d'eau, vous. Qu'est-ce qui a dit que le pauvre a besoin de boire l'oubli de ses maux? J'ai entendu cette parole-là quelque part, c'est une vérité. Au moment où les morts et le meunier allaient abandonner provisoirement Kadosh, celui-ci fit entendre un gémissement profond. « Eh bien, mon oncle, » dit en souriant le meunier, « ça va pas mieux ?»« Je suis mort, » répondit faiblement le mendiant. « Ayez pitié de moi, achevez-moi, je souffre trop. »« Ça se passera, mon oncle, un peu d'eau et un bon lit. » »« Ils m'ont écrasé, ils m'ont passé sur le corps, » reprit le mendiant. « Mais ce n'est pas impossible, » dit les morts. « Oh, ça se dit toujours comme ça, » reprit le meunier, qui avait vu trop souvent les divagations pénibles de l'ivresse pour s'inquiéter beaucoup. « Voyons, père Kadosh, vous est-il arrivé malheur tout de bon ?»«
Oui, la voiture sur l'estomac, sur le ventre, sur les bras. »
« Décrochez donc une des lanternes de ce cabriolet et apportez-la ici, » dit le meunier à les morts. « Ça éclaire un coin, ça obscurcit l'autre. Quand il aura ça sous le nez, nous verrons bien s'il a du mal ou du vin. »«
Non, oh, oh, pas de vin, pas de vin, » murmurait le mendiant. « On va assassiner, écraser comme un pauvre chien. Il faudra que j'en meure. » Que le bon Dieu, la Sainte Vierge et tous les bons chrétiens aient pitié de moi et venge ma mort.
Les morts approcha la lanterne. La face du mendiant était livide. Ses vêtements étaient trop délabrés pour qu'une déchirure et une souillure de plus ou de moins puissent servir d'indice. Mais en écartant les haillons qui lui couvraient la poitrine, on vit sur ses côtes décharnées des traces d'un rouge ardent. C'étaient les bandes de fer des roues qu'il avait sillonnées. Cependant, le sang n'avait pas jailli, les côtes ne paraissaient pas brisées, et la respiration était encore assez libre. Il put même raconter son accident, et il eut assez de force pour vomir contre le riche en voiture et le vil mercenaire qui renchérissait sur l'insolence et la cruauté du maître, toutes les imprécations et tous les serments de vengeance que la rage et le désespoir purent lui suggérer. « Ben, Dieu merci, » dit le meunier, « vous n'en êtes pas mort, mon pauvre Kadosh, et il faut espérer que vous n'en mourrez pas. Tenez, la route de droite était dans ce fossé, et on en voit la trace. C'est ce qui vous a sauvé. » La voiture, en y penchant, a pesé sur vous aussi peu que possible. C'est un miracle qu'elle n'ait pas versé sur l'autre flanc. Bien, j'ai bien fait mon possible, dit le mendiant. Eh bien, votre malice vous a servi, mon oncle. Ils n'ont pas pu vous écraser. Eh, nous leur revendrons ça. Non pas à ce pauvre monsieur Ravalard, qui en aura plus de chagrin que vous, mais à ce damné méchant enfant. « Et mes journées que je vais perdre, » dit le mendiant d'un ton dolent. Ah, dame, vous gagneriez peut-être plus d'argent à vous promener que nous autres à travailler. Ben, on vous aidera, père Kadosh. On fera une quête pour vous. Et je vous donnerai, moi, votre pesant de blé. Ne vous chagrinez pas. Quand on a du mal, faut pas se laisser achever par la peur. En parlant ainsi, le bon meunier, avec l'aide de les morts, plaça le mendiant dans le cabriolet, et ils le ramenèrent au pas, évitant les cailloux avec un soin extrême. Monsieur Taillant, qui ne gravissait pas vite la côte, de crainte de s'essouffler, s'étonna de les voir revenir, et quand il sut de quoi il était question, il prêta son cabriolet de bonne grâce, non sans s'inquiéter pourtant un peu du retard que cet accident lui faisait éprouver, et de la fatigue qu'il aurait à remonter la côte quand il était déjà en haut. Il ne la redescendit pas moins, pour voir s'il pourrait aider ses amis du moulin à secourir le pauvre Cadoche. Quand on déposa le vieillard sur le propre lit du meunier, il tomba en défaillance. On lui fit respirer du vinaigre. « Oh, j'aimerais mieux l'odeur de l'eau de vie, » dit-il. Quand il commença à revenir, « C'est plus sain !» On lui en apporta. « J'aimerais mieux la boire que de la respirer, » dit-il, « c'est plus fortifiant. » Lénore voulut s'y opposer. Après un tel accident, cet ardent breuvage pouvait et devait provoquer un accès de fièvre terrible. Le mendiant insista, le meunier essaya de l'en détourner. Mais le notaire, qui avait trop étudié sa propre santé pour n'avoir pas quelques préjugés en médecine, déclara que l'eau dans un tel moment serait mortelle à un homme qui n'en avait peut-être pas bu une goutte depuis 50 ans, et que l'alcool, étant sa boisson ordinaire, ne pouvait lui faire que du bien, qu'il n'avait pas d'autre mal sérieux que la peur et que l'excitation d'un petit verre lui remettrait les sens. La meunière et Jeannie, qui, comme tous les paysans, croyaient aussi à la vertu infaillible du vin et du brand de vin dans tous les cas, affirmèrent, comme le notaire, qu'il fallait contenter ce pauvre homme. L'avis de la majorité l'emporta, et pendant qu'on cherchait un verre, Cadoche, qui se sentait dévoré réellement par la soif qu'excitent les grandes souffrances, porta précipitamment la bouteille à ses lèvres et en avala d'un trait plus de la moitié. « c'est trop !» dit le meunier en arrêtant. « Comment, mon neveu ?» répondit le mendiant avec la dignité d'un père de famille, réclamant l'exercice légitime de son autorité. « Tu me mesures ma part chez toi ? Tu chichotes sur les secours que mon état réclame ?» Ce reproche injuste vainquit la prudence du simple et bon meunier. Il laissa la bouteille à côté du mendiant, lui disant « Gardez ça pour plus tard, mais à présent, c'est assez. »« T'es un bon parent et un digne neveu, » dit Cadoche, qui parut tout à coup ressuscité par l'eau de vie. « Et si je dois en mourir, je préfère que ce soit chez toi, parce que tu me feras faire un enterrement convenable. J'ai toujours aimé ça, un bel enterrement. »« Écoute, mon neveu, garçon de moulin, notaire, » « Je vous prends tous à témoin. J'ordonne à mon neveu et à mon héritier, grand Louis Langimau, de me faire porter en terre, ni plus ni moins honorablement qu'on le fera sans doute bientôt pour le vieux Bricolin de Branchemont, qui me survivra de peu, malgré qu'il soit plus jeune, mais qui s'est laissé brûler les jambes dans le temps. « Ah, dites donc, vous autres, faut-il être bête pour se laisser rôtir les quilles ?» pour de l'argent qu'on a en dépôt. Il est vrai qu'il y en avait du sien avec dans le pot de fer. Qu'est-ce qu'il dit donc, dit le notaire, qui s'était assis devant une table et qui n'était pas trop fâché de voir la meunière préparer du thé pour le malade, contente d'en avaler aussi une tasse bien chaude, pour se préserver des vapeurs du soir au bord de la Vauvre. Qu'est-ce qu'il nous chante avec ses quilles rôties et son pot de fer ? « Ben, je crois qu'il bat la campagne, » répondit le meunier. « Au reste, quand il ne serait ni saoul ni malade, il est assez vieux pour radoter. et les histoires de sa jeunesse l'occupent plus que celles d'hier. C'est l'habitude des vieillards. Comment vous sentez-vous, mon oncle ? Je me sens bien vieux depuis cette petite goutte, quoique ton brin de vin soit diablement fade. On fait la niche d'y mettre de l'eau par économie. Écoute, mon neveu, si tu me refuses quelque chose pendant ma maladie, je te déshérite. Ah oui, parlons de ça pour changer, dit le meunier en haussant les épaules. Vous feriez mieux d'essayer de dormir, père Canoche. Dormir, moi, j'en ai nulle envie, répondit le mendiant en se redressant sur son coussin et en promenant autour de lui des yeux étincelants. Je sens bien que je suis cuit, mais je veux pas mourir sur le flanc comme un bœuf. Oui, non, je sens quelque chose de bien lourd dans mon estomac. Là, sur le cœur, comme si j'avais une pierre à la place, ça me démange, ça me gêne. Meunière, faites-moi donc des compresses. Personne ne s'occupe de moi ici, comme si je n'étais pas un oncle à succession. Mais n'aurait-il pas les côtes enfoncées, dit les morts. C'est peut-être ça qui l'oppresse le cœur. J'y connais goût, ni personne ici, dit le meunier. Mais on peut bien envoyer chercher le médecin, qui est sans doute encore à Blanchemont. Mais qu'est-ce qu'il appellera à la visite du médecin, dit le mendiant, qui était aussi avare que vaniteux de sa prétendue richesse. Ce sera moi, répondit Grand Louis, à moins qu'il ne veuille agir par humanité. Il ne sera pas dit qu'un pauvre diable crèvera chez moi, faute de tous les secours qu'on donnerait à un riche. J'alimente sur Sophie. Et va-t'en bien vite chercher Monsieur Lavergne. Monte sur Sophie, dit Canoche en ricanant. Tu dis ça par habitude, mon neveu, t'oublies qu'on te l'a volée, ta Sophie. On l'a volée, Sophie ? Dit la meunière en se retournant. Oh, il déraisonne, répondit le meunier. Mais n'y faites pas attention. Dites donc, père Canoche, ajouta-t-il en baissant la voix et en s'adressant au mendiant. « Vous savez donc ça ? Est-ce que vous pourriez me donner des nouvelles de ma bête et de mon voleur ?»« Qui peut savoir pareille chose ?» répliqua Canoche d'un air confit. « Qu'est-ce qui découvre les voleurs ? C'est pas les gendarmes, ils sont trop bêtes !» Qu'est-ce qui a jamais vu dire que les gens ont fait brûler les jambes et enlever le pot de fer du père Pricotin ? Voilà, dites donc, mon oncle, reprit le meunier. Vous nous parlez toujours de ces jambes-là. Ça vous occupe donc beaucoup. Depuis quelque temps, toutes les fois que je vous rencontre, vous y revenez. Et ce soir, il y a un pot de fer de plus dans votre histoire. Vous m'aviez jamais parlé de ça ? Ne le fais donc pas causer, dit la meunière, tu lui as redoublé sa fièvre. Le mendiant avait la fièvre, en effet. Toutes les fois que ses hôtes tournaient la tête, il avalait furtivement une lampe et d'eau-de-vie, et il replaçait adroitement la bouteille sous son traversin, du côté de la ruelle. À chaque instant, il paraissait plus fort, et c'était merveille de voir comment ce corps de fer supportait à un âge si avancé les suites d'un accident qui eût brisé tout autre. « Le pot de fer !» dit-il en regardant fixement Grand-Louis, avec des yeux étranges, qui lui causèrent une sorte d'effroi inexplicable. « Le pot de fer, c'est le plus beau de l'histoire. Je m'en vais vous le raconter. »« Racontez, racontez, père Canoche !» « Ça m'intéresse, » dit le notaire, qui l'examinait avec attention.